représentativité des syndicats, calculs et arrière-pensées contre les travailleurs. Le 29 mars, le gouvernement a présenté les résultats de la mesure d'audience de la représentativité syndicale. Le premier syndicat du pays reste la CGT avec 26,67% des voix, suivi par la CFDT 26%, FO 15,94%, la CGC 9,43% et la CFTC 9,30%. Ces cinq syndicats et eux seuls sont jugés représentatifs à l'échelle nationale. Ils peuvent donc signer des accords nationaux avec le patronat et le gouvernement jusqu'à la prochaine mesure dans 4 ans. L'UNSA, 4,26%, et Solidaire, 3,47%, n'atteignent pas les 8% minimaux. Dans les prochains mois, le ministère du Travail donnera également la liste des organisations représentatives dans chacune des branches professionnelles. Les critères qui définissent désormais la représentativité syndicale ont été modifiés sous Sarkozy en 2008. Auparavant, 5 centrales syndicales étaient représentatives de droit, sans avoir à le justifier. La CGT, FO, la CFTC et la CGC depuis 1945 et la CFDT depuis 1966. Cette fois-ci, la représentativité dépend des résultats des élections professionnelles effectuées dans les entreprises de plus de 10 salariés entre 2009 et 2012, du scrutin organisé dans les très petites entreprises moins de 10 salariés en décembre 2012 et de celui des chambres d'agriculture de janvier 2013. La loi ajoute quelques autres critères soumis à l'appréciation du Haut Conseil du dialogue social fondé par Sarkozy, à savoir indépendance, transparence financière, implantation territoriale. Pour les directions syndicales, ces résultats déterminent également la répartition des postes dans les nombreux organismes paritaires. Pour les gouvernements, c'est un moyen de sélectionner leurs interlocuteurs et en particulier ceux qui se comportent en interlocuteurs responsables prêts à négocier au nom du dialogue social. Relativement au système précédent, le fait de baser la représentativité sur les résultats électoraux peut paraître plus démocratique. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, cela s'était accompagné de mesures protégeant de fait la position des plus grandes centrales syndicales, ce qui explique qu'elles aient alors accepté cette réforme. Ainsi, par exemple, il est devenu plus difficile de fonder un syndicat reconnu dans une entreprise. En outre, la mesure de la représentativité, comme les élections de délégués du personnel, n'a lieu que tous les 4 ans. On n'en est plus aux élections annuelles de délégués d'ateliers et encore moins à leur contrôle par les travailleurs. Enfin, il suffit que des syndicats ayant 30% des voix signent un accord pour que celui-ci s'applique. Le fait que la CGT reste le premier syndicat dans une période où elle a une position plus contestatrice que la CFDT à l'égard des mesures prises contre la classe ouvrière, montre qu'au sein de celle-ci, beaucoup ne sont pas dupes des pseudo-négociations entre partenaires sociaux qui aboutissent à des reculs pour les salariés. Mais la CGT est bien loin de préparer la riposte nécessaire aux attaques conjointes du patronat et du gouvernement, en proposant des objectifs et des échéances à l'ensemble des salariés. Ces dirigeants participent aux mêmes négociations que les confédérations concurrentes, privilégiant eux aussi la concertation, au lieu d'œuvrer à mettre en place un rapport de force réel qui serait seul capable de faire reculer gouvernement et patronat. Claire Dunois.